Alors, pourquoi on vous parle de la liberté dans le mariage? C'est à cause de la notion de quatre piliers. Qu'est-ce que cette notion de quatre piliers? C'est les éléments naturels de tout mariage. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, la nature humaine telle que Dieu l'a créée et l'aspiration de la nature humaine, c'est qu'un homme et une femme s'aiment, restent ensemble, soient fidèles, accueillent les enfants qui y viendront, et soient libres de le faire. Donc cette liberté, elle n'a pas toujours été évidente à travers les siècles, parce qu'il y a ce qu'on appelle les mariages arrangés, où les entremetteurs, entremetteuses et les familles poussaient leurs enfants à se marier comme il était bon pour leurs intérêts patrimoniaux la plupart du temps. Et si vous connaissez un peu les pièces de Molière, c'est près de la moitié des pièces de Molière qui tournent autour de ce thème. Parce que c'était drôle à l'époque de résister au fait que ça soit arrangé par les parents. Alors, donc, liberté, fidélité, unité et indissolubilité du mariage sont les quatre éléments naturels du mariage. Liberté, c'est pour que le consentement soit plein et entier. Un véritable oui, libre. La fidélité, c'est que ce consentement ne soit pas trahi. L'unité, c'est que vous n'ayez pas d'autres femmes ou d'autres maris. Ce qu'on appelle la polygamie pour l'homme ou la polyandrie pour la femme. Il y a peut-être un ou deux cas de polyandrie dans le monde. Pourquoi ? Mais parce que c'est vraiment contre nature. La polyandrie faisant que, avant le progrès scientifique, si vous voulez, on ne savait pas qui était le père. Alors bien sûr, quand l'enfant va grandir, on peut voir à peu près à qui il ressemble, mais bon, c'est très conflictuel. Et la polyandrie aussi est très conflictuelle parce que le tempérament masculin ne s'accorde mal à ce qu'il y ait d'autres hommes. Et c'est naturel. L'homme a un tempérament qu'il ne peut pas totalement étouffer. Alors vous allez me dire, alors c'est parce que les femmes sont douces et soumises que la polygamie est plus naturelle. Eh bien non, c'est parce que l'enfant est certain dans la polygamie. On sait qui est la mère, et parce qu'elle a enfanté. Et le mariage, intrinsèquement, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour que l'enfant puisse être entouré, éduqué, et être un homme honnête et juste. Lorsque je vous dis, c'est très très terre à terre, on aura beau essayer de changer cette vérité, on n'y arrivera jamais. Vous pourrez mettre tout le budget de l'éducation nationale là-dedans, et bien 20 ans plus tard, ça va se craqueler, ça va sauter. Oui. Le mariage est fondé sur la différence entre l'homme et la femme, qui peut aboutir à la naissance d'autres générations que l'on va éduquer. Alors vous allez me dire, donc l'amour entre l'homme et la femme est secondaire. Non, il n'est pas secondaire, il est lié, mais il est lié à cette vérité qui fait que la réalité de la nature humaine est d'être homme et femme, et et l'union des corps aboutit, sauf maladie, sauf fatigue du corps, à l'enfantement. Et ces enfants, doivent recevoir l'éducation, l'amour, pour qu'ils soient eux-mêmes des êtres heureux. Alors voyez-vous, cette loi naturelle, cette vérité naturelle fait que lorsqu'il y a des deuils, lorsque un enfant est orphelin, lorsqu'il y a une épreuve, lorsque une mère ou un père, mais une mère ne peut pas garder son enfant parce qu'elle est désespérée, parce qu'elle est inquiète, parce qu'elle est dans la pauvreté extrême et qu'elle confie son enfant, eh bien la nature reprend ses droits, c'est-à-dire qu'on désire toujours avoir un couple qui nous aime, avec cette complémentarité de l'homme et de la femme pour nous. Alors vous allez me dire, de nos jours, on a découvert que, de manière tout à fait naturelle et égale, deux hommes ou deux femmes peuvent se marier. Ben, c'est faux. Enfin, moi, je peux le dire, je suis prêtre, donc j'irai pas en tôle tout de suite, parce que je me fonde sur la Bible et le catéchisme de l'Église catholique. Donc ils vont hésiter à me mettre en prison, mais si vous voulez, ça reste quelque chose qui est une sorte d'imagination, de fantaisie occidentale qui essaye de pénétrer dans tous les pays du monde, mais qui passera toujours à côté de la réalité, puisque, vous voyez, Elton John lui-même, lorsqu'il a acheté ses deux enfants par GPA, dit quand même au journaliste qu'il craint le jour où l'enfant lui demandera où est sa mère. Et quand il lui dira, mais père, mère, c'est un choix culturel, tu as ton papa et ton papa qui sont là et tu devrais être heureux, ben lui il va hein, il va boquer hein, il va dire, et bon ben ça nourrira les psychiatres et les psychanalystes pendant des années et des années, mais c'est si vous voulez, on vous vend ça comme bon alors que c'est faux si vous voulez, alors qu'ensuite des personnes aient des idées fixes on peut pas les en empêcher directement, hein. Il n'y a pas de pouvoir de coercition. On va pas les lapider. On va pas. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, voyez-vous. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un présentait de manière publique ses tentations homosexuelles, eh bien, il était tué. Donc ça rigolait pas, hein. Et dans l'islam actuellement, c'est toujours le cas, voyez-vous. Et donc, avec le Christ, cette mise à mort des pécheurs publics a disparu. Et on devait aussi mettre à mort ceux qui travaillaient le Shabbat, hein, le sabbat. Je sais pas si vous le saviez. D'après la loi de Moïse, normalement, on devait être aussi mis à mort si on travaillait. Alors donc, si moi, voyez-vous, le dimanche, je sors dans la rue avec un revolver et que je demande « Êtes-vous baptisé? » oui, enfin, je sais pas, dans des gens qui travaillent servilement et je dis, ben, au nom du Seigneur Jésus, pan. Vous voyez, ben, ça serait pas une bonne évangélisation, je pense. Donc justement, l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est que nos péchés, nos tendances, nos faiblesses sont combattu par une volonté qui se coule dans l'amour de Dieu et dans l'aide de Dieu. Du coup, ça ne nous autorise pas à pécher plus, mais ça nous, si vous voulez, ça nous pousse à ne pas pécher par, non seulement par la raison, mais par, la conviction. Et une conviction que Dieu a fait beaucoup pour nous tirer de nos faiblesses et qu'on devrait répondre à cet effort de Dieu. Ce qui fait que cette loi de l'Évangile, du fait que Dieu se soit fait homme, que Jésus ait fait des miracles que seul Dieu peut faire, qu'il ait prononcé des paroles qui se sont diffusées dans le monde entier, malgré les cultures différentes, les persécutions différentes, fait que tout le monde est invité à répondre à cet amour de Dieu librement, fortement, mais justement à bien comprendre que Dieu nous demande une réponse libre. Il veut nous convaincre Et il veut convaincre notre liberté. Il veut nous persuader de faire le bien. Il ne veut pas nous l'imposer absolument, parce que lui-même s'est posé cette limite de la liberté, de l'être intelligent. Alors, vous me direz, mais dans l'Ancien Testament, il avait permis aux autorités civiles et religieuses d'être très sévères avec les pécheurs, et donc, si vous voulez, de limiter leur liberté par une certaine punition forte et contraignante et très convaincante, si vous voulez. Au moins de ne pas pécher publiquement. Oui, eh bien, ça veut dire qu'il y a 2000 ans, hein, 2017 ans, eh bien, Dieu a choisi de toucher notre cœur tout en laissant des punitions naturelles. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un est gourmand, extrêmement gourmand, eh bien, il va mourir, son corps va être malade, il va avoir des problèmes de santé plus ou moins forts, un diabète, une cirrhose, des maladies qui sont liées à ces excès de table et qui sont pourtant, vous voyez, vous allez me dire, la gourmandise n'est plus un péché. Et si vous mangez 8 croissants tous les jours au petit déjeuner, ben vous allez avoir des problèmes de santé. Voilà, c'est de la gourmandise. Eh bien, quelle peine nous réserve Dieu ? Eh bien, il nous dit qu'à notre mort, nous serons récompensés du bien que nous avons fait. Nous recevons le pardon du mal qu'on regrette dans notre vie. C'est avant de mourir, hein. C'est pas après. Parce qu'après, on ne mérite plus. On ne choisit pas librement après la mort. On sait. Hein. On voit Dieu au moment de notre mort. On voit Jésus. Mais comme les gens voyaient Jésus du temps de... en Palestine, en Terre Sainte. Hein. Donc, il n'est pas là resplendissant, merveilleux, et en train de vous hypnotiser par la beauté de sa... de sa bonté. Il vous juge. Vous le voyez. Et vous avez communication d'esprit à esprit sur toute votre vie. Et vous avez déjà choisi. Donc c'est un constat de votre vie, hein, au moment de la mort. Et là, eh bien, comment dire, on a choisi avant de mourir. Ce qui fait que cette liberté fondamentale que nous avons, elle est, c'est vrai, autonome. C'est-à-dire que on peut très bien nous dire, après la mort, vous serez puni si vous avez la haine de Dieu et de votre prochain. Si vous avez fait du mal pendant votre vie et que vous n'avez aucun regret du mal que vous avez fait, que vous avez gardé cette malice jusqu'au bout, ou même vous avez eu une bonne vie, mais à la fin de votre vie, vous êtes tombé dans une jalousie extrêmement agressive vis-à-vis de quelqu'un, de haine familiale, et que vous mourrez dans ces conditions-là. Vous dites, ah oui, mais alors, s'il a fait bien toute sa vie, ben oui, mais même si c'est à 65 ans, vous détestez votre frère ou votre sœur pour des questions d'héritage, ben vous... Comment dire, c'est cette inclination profonde à la haine avec laquelle vous allez mourir. Eh bien, l'ultime contrainte qu'il y a, ben c'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais ça ne contraint pas notre liberté. On vous parle de l'enfer, on vous fait peur avec l'enfer, où il y a des prêtres qui ne vous parlent plus du tout de l'enfer, mais vous pensez bien qu'ici on va vous en parler. Et donc, l'enfer, c'est quoi? C'est le choix libre de renoncer à voir et à vivre avec Dieu. Et c'est aussi la haine de notre prochain. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Si quelqu'un qu'on aime va en enfer, comment on va vivre la vie éternelle sans cette personne? Mais cette personne ne vous aime pas si elle est en enfer. Les personnes qui sont en enfer ont la haine authentique et véritable de tout le monde. Parce qu'elles ont un égoïsme extrêmement profond. Elles ne veulent que leur plaisir et que leur intérêt absolument. Vous avez dit, mais ça doit être difficile quand même d'être égoïste à ce point-là. Mais c'est le véritable égoïsme. Laissez courir votre imagination quand vous réfléchissez à ça. Dites-vous, c'est tous les autres sont des instruments. Alors vous avez des bouquins sur les psychologies manipulatrices. Par pitié, ne lisez aucun de ces livres, puisqu'ils vont, pour vendre leurs bouquins, dire certaines vérités psychologiques, mais aboutir systématiquement au pervers narcissique manipulateur. Mais ce sont des actes d'égoïsme, des actes de mépris de l'autre, mais qui ne sont pas forcément intrinsèques à la personne. Donc faites attention à tous ces bouquins qui vous disent voilà, je suis manipulé, si je sens que je suis malheureux, oui, ben parlez-en, réconciliez-vous, faites quelque chose, mais ne restez pas sur votre bouquin de narcissique manipulateur. Parce que nous sommes libres. Et cette liberté, elle est vertigineuse, hein, elle est totale. Personne ne peut nous convaincre du contraire de ce que l'on veut penser, d'après ce que nous savons. C'est notre nature. Notre âme est un sanctuaire. Personne ne peut y pénétrer, sauf Dieu, qui va connaître intrinsèquement ce que l'on sait et ce que l'on veut, ce qui est dans notre intelligence et ce qui est dans notre volonté, ce qui est dans notre conscience. La conscience, c'est la vision de l'intelligence. C'est pas vous qui faites votre conscience. C'est ce que vous savez, la conscience. C'est pas ce que vous imaginez ou ce que vous voulez, c'est ce que vous savez. Vous dites, il ne faut pas voler. Mais il ne faut pas voler même un article dans un supermarché et passer à la caisse. Et vous ne pourrez pas vous empêcher de le savoir, cela. D'autres se disent, oh, on peut prendre quelques fruits dans un supermarché, les passer comme ci, comme ça, c'est pas mauvais. Oui. Donc ils ont une conscience plus légère. Oui. Mais par contre, si vous faites passer des lames de rasoir pour un homme, à 47,50 €, vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont dans une boîte avec un petit machin électrique qui fait sonner les bornes. Parce que bon, c'est pas un avocat, hein, c'est pas une orange, c'est un lot de 4 lames, 5 lames là, ça coûte cher. Voilà. Et en général, on met sous le manteau ce qu'on vole. C'est curieux. En général, quand on ment, et mentir, c'est dire quelque chose de faux, en faisant passer cela pour vrai à une personne que l'on veut tromper. C'est ça un mensonge. Et pour obtenir un bien que l'on n'aurait pas si on ne mentait pas. Et donc, on ne veut pas être découvert lorsqu'on ment. Et quand on ment, on a peur que l'on découvre la vérité et qu'on voit que ce qu'on a dit est faux. Parce qu'on a peur de ne pas obtenir ce qu'on veut obtenir et on a honte de mentir parce que c'est une lâcheté, c'est une rouerie, c'est une malhonnêteté, le mensonge. Si je vous dis qu'il y a un énorme crocodile qui vient d'entrer, voyez, d'abord vous n'avez pas entendu la porte s'ouvrir, vous dites, eh bien, je dis quelque chose de faux, mais je ne vous trompe pas. Alors ce n'est pas un mensonge. Tout ce qui est faux n'est pas un mensonge. Voyez. Et on sait bien quand on ment, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose de faux pour le faire considérer comme vrai à une personne et obtenir un avantage. Cet avantage, c'est simplement de l'estime. Vous avez lu ce livre ? Oui, mais bien sûr. Oui. D'ailleurs, il est très intéressant, tout ça. Vous l'avez pas lu. Alors le problème, c'est quand elle commence à vous raconter l'histoire, voilà, bon, faut voir, hein. Si vous avez lu un résumé avant, vous voyez. Si c'est votre maîtresse d'école qui vous dit, alors vous avez tous lu 20 000 lieues sous les mers, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Oh, c'est terrible, cette pieuvre et tout. Alors, bon, c'est pas. Ce navire électrique, parce que vous êtes allé à Disneyland et que vous avez visité le Nautilus. Hein, Tout ça pour vous dire que la liberté est quelque chose qui est intrinsèque chez vous. Et personne ne peut vous obliger à dire oui si vous ne voulez pas dire oui. Donc si votre oui n'est pas sincère, eh bien, vous le savez. Alors un oui pas sincère dans un mariage, c'est pour obtenir l'argent. C'est pour obtenir la paix avec sa famille, si c'est un mariage arrangé, une pression. C'est pour éviter que la personne amoureuse se suicide. Et voilà. C'est pour que voilà, c'est. Il peut y avoir 1 000 raisons où vous agissez contre votre conscience et contre votre volonté en disant un oui extérieur. D'où l'importance de nos jours, en 2017, comme il n'y a plus aucune pression sociale pour vous empêcher de divorcer, de vous séparer de corps, parce que vous resterez marié si vous le faites en invoquant l'amour de Dieu. Donc il est temps d'arrêter tout ça et de dire, bon, ben, si j'ai pas, enfin voilà, vous êtes venu pour un mariage religieux, donc ce mariage est indissoluble, il n'y a pas de divorce. On déplaise aux évêques qui vont interpréter des textes du pape François, faisant croire que qui, que quoi, rien du tout. C'est faux, c'est du pipeau, et ces interprétations qui vont à l'encontre de ce que, comment dire, ce qui est vrai, tomberont. Et vous serez déçus. Dans 20 ans, vous direz, voilà, bon, c'est plus possible, tout ça. On a expliqué à nos 4 enfants. On verra hein, pour les enfants que voilà, on pouvait plus vivre ensemble et donc on a demandé au prêtre de faire une cérémonie parce que moi je maintenant j'ai trouvé là vraiment l'âme qui me comprend. Qu'est-ce que j'ai souffert pendant ces années? Je me suis vite aperçu que c'était pas mais bon on m'avait dit qu'il fallait se réconcilier, qu'il fallait faire des efforts et tout, c'est pour ça que voilà. Eh ben non. Non, 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 non. Alors si par contre, au bout de 2 ans, n'est-ce pas, vous apercevez qu'il est alcoolique, qu'il vous frappe, qu'il a 3 maîtresses et tout, là, on peut considérer que votre mariage est nul. C'est-à-dire que les consentements se sont partis dans le vide. Parce qu'un des deux n'avait pas la capacité même de dire oui. La liberté étant non seulement le fait de prendre une décision consciente et volontaire, mais il faut être capable de la prendre. Une personne qui a une maladie psychiatrique ne peut pas poser un consentement valide au mariage. Si elle est paranoïaque, mais si elle est d'une personnalité paranoïaque, névrosée, déjà c'est pas facile à vivre. Mais si elle a une psychose paranoïaque qui se révèle au bout de 5-7 ans de mariage, parce que les psychoses paranoïaques ne se révèlent pas toujours à l'adolescence, ou même à 20-25 ans. Moi, je connais une personne qui doit avoir 40 ans et quelques, et qui a une psychose paranoïaque totale. Elle est complètement asociale. Vous voyez, toute personne veut lui nuire. Et à un moment donné, cette personne a vécu dans un studio sans sortir avec des haillons hein, à la fin quoi, parce que ses vêtements ils vieillissaient quoi. Et donc il sortait pour manger tout ça fait mais bon comme un ours quoi hein, c'était impressionnant un vrai vrai paranoïaque oui. Vous avez des vrais 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 schizophrènes, vous avez des vrais 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 bipolaires parce que le diagnostic de bipolarité de nos jours presque tous les psychiatres le font. On est tous bipolaires. Tout simplement parce qu'un jour on est joyeux, un jour on est un peu triste. C'est un peu... C'est les maniaco-dépressifs de l'ancien temps. Non, il ne faut pas exagérer. Un mariage n'est pas nul aussi facilement. Il faut que ça soit une grave maladie psychiatrique. Manque de chance. Ah non, mais vous vous rendez compte, il riait comme un dingue le lundi, et le mercredi, il faisait la tête. Hein. Donc il était maniaco-dépressif. Alors, c'est pas simple, tout simplement parce qu'il avait une bonne nouvelle au bureau et qu'il a ri un lundi que vous pouvez vous débarrasser de votre mari comme ça. Voilà. Enfin, en tout cas, cette liberté, donc, elle peut être empêchée par une maladie. Elle peut être empêchée par une maladie, mais elle doit être grave. Voilà. C'est ce qu'on appelle le manque de discernement. Ça doit être grave. Ça peut pas être une simple légèreté. Par exemple, vous avez l'anniversaire de mariage d'un couple qui s'est marié au bout de 3 mois à partir de leur première rencontre. De nos jours, on ne l'accepterait pas. Là, j'ai eu un couple qui se connaissait depuis 4 mois, 5 mois, qui m'ont demandé de les marier en avril, j'ai dit non. Je peux toujours trouver un autre prêtre, mais de toute façon, c'est un minimum de 6 mois entre la première rencontre avec le prêtre et le mariage. Donc à moins qu'ils se soient rencontrés la veille, et dit, on veut se marier. Voilà. Ah bon? Dans 6 mois? Ah oui, bon alors, vu comme ça. Et, parce que la règle non écrite, c'est 6 mois entre la première rencontre avec le prêtre et le mariage. Mais on est... Oui, ah oui, parce que vous, voilà, mais il faut que les personnes se soient fait la cour depuis plus longtemps. Et ça alors là, depuis combien de temps? Voilà. Alors un prêtre, il va dire, oui, alors vous vous connaissez depuis combien de temps? Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, il est, nous verrons justement dans la liberté que, comment dire, la vieille loi naturelle nous demande de faire attention. Alors, cette liberté, donc, en fait, ils se sont connus, ils se sont mariés en 3 mois et ils célèbrent 70 ans de mariage. C'est une belle romance d'il y a 70 ans. Des couples se marient à 20 et 22 ans et ne divorcent pas. Mais de nos jours, on est très 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 frileux pour les jeunes couples. Et donc, on fait attention. Mais bon, s'ils insistent, au synode sur la famille, on aurait pu imposer 1 an, incompressible. Donc, oui, mais du coup, vous allez faire partir, ils ne vont pas se marier à l'église. S'ils ne veulent pas se marier à l'église parce qu'ils ont déjà tout prévu, la salle, le machin et le truc et le bidule pour cet été et qu'ils ne sont pas contents, mais tant pis. On aurait pu dire 9 mois, c'est-à-dire qu'on mettrait l'obligation aux fiancés de venir en septembre pour l'été. Enfin, tout ça pourquoi? Pour la liberté. Et cette liberté, donc, et sa sincérité, elle est en vous. Et elle a pour objet de choisir d'être ensemble dans la fidélité. Et donc, le deuxième point de, comment dire, du pilier, comme on dit, du mariage, c'est cette fidélité.